Europe Matin.
Le 7-9.
Mathieu Béliard.
Bonjour Hélène Zélani.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Vous êtes sur Europe 1. Écoutez le monde changer. Il est 7h.
Il peut y avoir une adaptation du confinement à partir du 1er décembre ou des jours qui l'entourent. Mais nous ne sommes pas du tout au déconfinement. On en est même loin.
C'est le mot à ne pas prononcer en haut lieu. Déconfinement, on en est loin, dit le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal. Il faut plutôt parler d'allègement. On va vous révéler comment il pourrait s'organiser dans les semaines qui viennent, les dates clés, mais aussi la stratégie pour éviter une troisième vague. Les commerçants ont bon espoir de rouvrir à la fin du mois. En revanche, pour les restaurateurs, ça semble très mal engagé, avec des effets collatéraux sur de nombreux secteurs. On s'intéressera à la filière volaille. Dans ce journal, ce chiffre sidérant, un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste et un témoignage poignant.
J'ai grandi avec la peur de parler, la peur de dire les choses. J'ai fait 4 tentatives de suicide en 6 mois.
Un sommet européen aujourd'hui en visio et des pays de l'Est qui font de la résistance sur le plan de relance. Et puis, cette année, pas facile de fêter l'arrivée du Beaujolais nouveau confiné. En tout cas, notre correspondant à Lyon l'a goûté pour nous.
Juste après ce journal, pour protéger les données industrielles, l'enjeu Gaïa-X, un projet de cloud européen, l'éclairage éco de Nicolas Barré. Pourquoi Donald Trump quitte-t-il l'Afghanistan ? C'est l'éclairage, le regard international de Vincent Hervouet, l'édito sport de Virginie Fulpin, avant de retrouver Stéphane Bern pour notre rendez-vous d'histoire. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et ce matin, Europe 1 peut donc vous dévoiler les projets du gouvernement pour les semaines qui viennent. Comment satisfaire les commerçants ? Comment ne pas prendre trop de risques sur le plan sanitaire ? Comment laisser les Français fêter Noël en famille ? Dans ce studio, Anne Le Gall, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes notre spécialiste santé. Vous allez nous expliquer dans un instant la stratégie qui pourrait être mise en œuvre sur le plan sanitaire. Mais d'abord, Louis Dragnel, bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Du service politique, vous nous dévoilez les deux dates clés du gouvernement.
Oui, alors la première, c'est le 1er décembre. Vous savez, ce jour-là, les commerces non essentiels devraient rouvrir et les messes pourraient à nouveau être célébrées. À ce stade, selon nos informations, il est aussi prévu que les cours d'auto-école puissent reprendre, les salons de coiffure et d'esthétique devraient aussi pouvoir rouvrir, ainsi que les visites d'appartements et les cours à domicile.
Alors ça, c'est pour le 1er décembre. Quelle serait la deuxième date dans les tuyaux, Louis ?
La deuxième date très importante qui est évoquée, c'est le 20 décembre. Alors ce sera un dimanche et il devrait marquer la fin des attestations. Alors attention, il ne s'agit pas d'un déconfinement, on parle là d'un allègement du confinement. Mais cela devrait permettre d'aller fêter Noël en famille au-delà du kilomètre réglementaire. On devrait donc pouvoir se déplacer, se retrouver, mais pas n'importe comment et pas dans n'importe quelles conditions. Alors aujourd'hui, vous savez, il est recommandé de ne pas se réunir à plus de 6 dans un lieu privé. Et pour Noël, la jauge conseillée suggérée pourrait monter à une dizaine de personnes maximum. C'est en tout cas, à ce stade, l'hypothèse qui est le plus souvent évoquée en coulisses. Évidemment, ce sera une recommandation parce que l'État ne peut pas l'imposer légalement. Alors soyons clairs, ces deux dates, 1er et 20 décembre, sont évoquées sous réserve, bien sûr, de l'évolution positive de la situation sanitaire. Vous savez, c'est la priorité du président, mais il est aussi obsédé par l'acceptation sociale. Emmanuel Macron veut à tout prix éviter des troubles sociaux. Une note confidentielle des services de police datée du 17 novembre a mis en garde l'exécutif contre la lassitude et les réticences des Français. Cette note évoque aussi la crainte d'attaques contre des entrepôts de e-commerce notamment.
Louis Dragnel, merci. Je voudrais que tous nos auditeurs aient une petite réflexion. Ils sont en train de faire la liste des invités, une dizaine de personnes maximum pour Noël. Une situation donc, on l'a compris, à haut risque pour la circulation du virus pour la fin du mois de décembre. Anne Le Gall, je me tourne vers vous. Évidemment, la grande crainte, c'est la troisième vague en janvier.
Ben voilà, puisque les Français veulent tous sortir, se retrouver en famille pour Noël. Et risque supplémentaire, il y a la question de la météo. On le sait, le froid sera propice à la propagation du virus, au moins jusqu'en mars. Alors pour garder le contrôle de l'épidémie en attendant un éventuel vaccin, le gouvernement veut tester plus vite et isoler davantage les cas positifs. Pour ce qui est des tests, alors ça va déjà un peu mieux, puisque 250 000 tests antigéniques ont déjà été réalisés depuis la fin du mois d'octobre. Avec leur réponse en 15 minutes, on casse plus vite les chaînes de contamination. Et ces tests sont désormais pris en compte dans les statistiques officielles. Par ailleurs, les pharmaciens et les médecins qui font ces tests sont incités à remonter les résultats au plus vite dans le fichier central, faute de quoi ils ne seront pas remboursés. Et enfin, le ministère de la Santé compte aussi sur des dépistages massifs dans les établissements scolaires, dans les entreprises et peut-être aussi dans des villes entières.
Tester, c'est bien Anne, mais isoler les patients positifs, c'est encore mieux, c'est même indispensable. Comment est-ce que le gouvernement veut s'y prendre ?
Alors l'isolement, c'est vrai que c'est jusqu'ici le point faible du dispositif. dispositif. Et plutôt que la sanction avec contrôle, amende pour ceux qui ne respecteraient pas la règle, hypothèse qui a été sur la table, la piste sur laquelle travaille le gouvernement, c'est plutôt désormais l'accompagnement des cas positifs qui doivent rester à domicile, une mission qui pourrait revenir aux équipes de l'assurance maladie. Aujourd'hui, 11 000 personnes assurent déjà le traçage des cas contacts 7 jours sur 7. Et à l'avenir, ces équipes pourraient aussi aider les malades à mieux s'isoler avec appels téléphoniques, conseils personnalisés, pour que les patients donc soient rassurés et appliquent les bons gestes barrières, y compris quand ils sont nombreux dans le même appartement, par exemple.
Merci Anne Le Gall, merci Louis Dragnel.
Une éclaircie en vue pour les commerçants. En revanche, pour les restaurateurs, ce sera sans doute Noël à la maison.
Oui, ils ne savent toujours pas à quelle échéance ils pourront rouvrir. C'est une catastrophe pour eux, mais aussi pour de nombreux autres secteurs qui dépendent de la restauration, comme la filière volaille. Elle enregistre 10% de son chiffre d'affaires annuel la dernière semaine de décembre. Pierre Herbulot.
Il faut sauver Noël et ses volailles. C'est le cri d'alarme de toute la filière qui s'inquiète de voir la période la plus importante de l'année gâchée par la crise sanitaire.
Ça tombe au pire moment, bien sûr.
Marie-Pierre P, la directrice de l'interprofession du foie gras, demande la réouverture des restaurants.
La restauration, c'est très important pour le foie gras, c'est plus de 40% de nos débouchés.
100% pour les pintades d'Éric Lefeuvre, directeur général de l'entreprise Savelle. Il négocie en ce moment avec la grande distribution, mais va perdre du chiffre d'affaires quoi qu'il arrive. Pour éviter de se retrouver avec trop de marchandises sur les bras, il a réduit d'un tiers sa production pour les fêtes.
On est sur des mises en place qui sont prudentes pour éviter effectivement de se retrouver dans des situations compliquées avec le Covid. Quoi. L'enjeu cette année, sur ce Noël un peu particulier, ça va être bien d'écouler l'ensemble des volumes qui ont été mis en place. Hein. La pintade, c'est essentiellement sur Noël, donc il ne faut pas se rater. Quoi.
La dernière crainte, c'est le maintien du confinement ou d'éventuelles mesures de restriction sociale comme l'interdiction de grands rassemblements familiaux. Indispensable pour la vente des plus grosses volailles dites festives, comme les dindes ou les chapons.
Pierre Herbulot, pendant ce temps-là, aux États-Unis, on vient de passer le cap des 250 000 morts. La ville de New York ferme d'ailleurs ses écoles publiques à partir d'aujourd'hui. Le Japon, de son côté, est en alerte maximale, mais pas de nouvelles restrictions pour l'instant. Enfin, en Allemagne, des milliers d'opposants au masque ont défilé hier à Berlin au cri d'amour, liberté, pas de dictature. Ils ont été dispersés par les forces de l'ordre avec des canons à eau et des gaz lacrymogènes.
7h07 sur Europe 1. Écoutez bien ce chiffre. Il va vous saisir ce matin. Un Français sur 10 affirme avoir été victime d'inceste. C'est ce que révèle une enquête Ipsos pour l'association Face à l'inceste.
Oui, il s'agit de projections, mais ça paraît complètement incroyable. Hein. 6 700 000 Français concernés par ce qui est encore aujourd'hui un tabou. Guillaume a 46 ans, il a été abusé par son beau-père et son combat, il est quotidien pour tenter de surmonter sa souffrance.
J'ai commencé à être victime donc, de violences sexuelles à l'âge de 4-5 ans à peu près. Ça a duré une quinzaine d'années, à peu près toutes les semaines, plusieurs fois par semaine. J'ai grandi avec la peur de parler, la peur de dire les choses. Et à 28 ans, mon corps a réagi. J'ai fait 4 tentatives de suicide en 6 mois. Oh, j'ai eu du mal à leur parler. Quand on grandit dans une famille qui a toujours peur d'être jugée par les autres, donc il faut toujours se taire, il faut... Et là, j'étais bien conscient qu'en parler, ça aurait été un tsunami pour eux. Il y a eu une enquête et mon beau-père a avoué les faits. Maman s'est excusée de ne jamais rien avoir vu, mais comme je lui ai dit, les choses étaient faites de façon à ce qu'elle ne voit pas.
Elle avait 4-5 ans, vous entendez, pendant 15 ans, porter ce tabou et puis la peur d'en parler. Bonjour Virginie Riva.
Bonjour.
La parole donc se libère progressivement et pourtant le chiffre d'un Français sur 10 victimes d'inceste est peut-être en deçà de la réalité.
Oui, car c'est le tabou absolu qui touche toutes les strates de la société, tous les milieux. Le chiffre est même peut-être sous-évalué, dit l'association, car beaucoup de victimes n'osent sans doute pas parler, même si la parole se libère. En 2009, 2 millions de victimes s'étaient déclarées. Le chiffre a donc plus que triplé en 10 ans, et sans doute pas parce que le phénomène s'est amplifié. Par ailleurs, 8 victimes sur 10 sont des femmes. Les hommes ont peut-être plus de difficultés à parler car souvent le parent abuseur est un homme. C'est aussi la raison pour laquelle le secrétaire d'État Adrien Taquet, en charge de l'enfance et des familles, va lancer une commission sur les violences sexuelles faites aux enfants, dont l'une des missions sera de recenser le nombre le plus précis possible de victimes d'inceste.
Merci Virginie Riva. Et demain, c'est la journée internationale des droits de l'enfant. Le procès de Jonathan Daval, suspendu à son état de santé hier, l'accusé accusé a eu un malaise pendant son interrogatoire devant les assises de Haute-Saône. Il a passé la nuit à l'hôpital.
Un sommet européen se tient aujourd'hui, en visioconférence bien sûr. Au cœur des discussions, le fameux plan de relance bloqué par la Hongrie, la Pologne et la Slovénie.
Et oui, trois pays qui refusent que le versement des fonds soit conditionné au respect de l'état de droit. Le secrétaire d'État aux affaires européennes, Clément Beaune, est en tout cas très clair. L'Union et la France ne renonceront pas à ce mécanisme. Il est prêt à envisager un plan de relance sans les pays récalcitrants.
Je le dis très clairement, la France ne renoncera ni à la relance, ni à ses valeurs, et certainement pas à ce mécanisme sur l'état de droit. Nous regarderons, s'il le faut, en dernier ressort, comment avancer sans les pays qui bloquent, car l'Europe ne peut pas être retenue en otage par un certain nombre de gouvernements qui ne souhaitent pas avancer, qui ne souhaitent pas respecter le socle essentiel de notre projet politique.
Clément Beaune, secrétaire d'État aux affaires européennes.
Un petit goût de banane, de cassis, de framboise, vous savez très bien de quoi je veux parler. Comme chaque année, le Beaujolais nouveau, sauf que cette année, c'est un peu différent. Pas de virée au bar entre copains pour fêter ça.
Eh oui, il faut acheter sa bouteille en supermarché. Mieux encore, pour soutenir le petit commerce, chez son caviste de quartier qui a le droit de rester ouvert, Jean-Luc Boujon. En tout cas, il a goûté le Beaujolais nouveau à Lyon.
Jusque-là, tout est normal pour un troisième jeudi de novembre.
Le Beaujolais nouveau, il faut servir un verre généreux.
Et cette année, avec des vendanges précoces, ce Beaujolais nouveau domaine des canailles est même très réussi, explique Vincent Deschlette, patron de la cave lyonnaise, le troisième fleuve. C'est ainsi qu'on appelle le Beaujolais à Lyon.
On a vraiment des arômes de fruits rouges qui arrivent tout de suite, côté fraise, qui est vraiment en place, vraiment prenant. C'est ce qu'on attend d'un Beaujolais nouveau. Il faut que ça pète de fruits. On cherche un vin facile à boire, festif, et donc il faut cet esprit de fruits explosif, ce côté avenant, comme un bon pote qu'on retrouve.
Sauf que cette année, les potes, pas question de les voir au bar ou au resto qui sont tous fermés, même la cave de Vincent, elle non plus ne tourne pas à plein. Malgré tout, il s'est préparé à recevoir autant d'amateurs que d'habitude.
On a fait 1000 bouteilles de Beaujolais nouveau l'année dernière. Volontairement, j'ai maintenu le même volume de commandes. Donc on est un peu triste parce qu'on ne peut pas faire cette grande fête, mais on sait que les gens vont s'amuser chez eux. Ça va certainement être un vin qu'on va redécouvrir en amoureux ou en tout petit comité en famille. J'aime bien cette idée que cette cuvée va se retrouver dans les foyers et être dégustée peut-être avec un peu plus d'attention. Là, on aura le temps de les décortiquer à table. J'aime bien cette idée-là.
Mais même en petit comité ou confiné, le Beaujolais nouveau, c'est quand même toujours avec modération. Lyon, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et en prime, Mathieu, nos voisins anglais, eh bien, ils lancent aujourd'hui aussi leur English Nouveau. C'est un vin rouge primeur.
Ça s'appelle English Nouveau.
Eh oui, il est produit au Royaume-Uni, seulement en 2500 bouteilles. On est encore loin de la production française, des bouteilles qui seront vendues environ 13 euros pièce.
Comme ça, à l'aveugle, Hélène Zelani, Nicolas Barré qui s'est installé déjà. Beaujolais Nouveau ou English Nouveau?
Ah bah, il faut goûter.
Ça, c'est presque de la
bien
langue
joué.
De bois. Merci Hélène Zelani, c'était le journal de 7h.
Europe 1, Mathieu Béliard.